Je propose à Patricia Andriot, qui est élue sur la région Champagne-Ardenne, de montrer comment l'activité locale a pu se mettre en adéquation avec une initiative d'acteurs d'une charte d'utilité sociale qui s'est mise en place sous la région.
Oui, je vais prendre cet exemple-là pour aussi réagir à ce qui vient d'être dit à l'instant, avec lequel je suis assez d'accord, et pour dire que entre ce qu'on a entendu là et puis l'expérience dont je vais témoigner, sur laquelle la collectivité que je représente, la région Champagne-Ardenne, est intervenue, comment ça interroge et du coup comment la notion d'utilité sociale, ça interroge le rôle d'une collectivité territoriale. Je me dis que ce concept ou cette idée d'utilité sociale, c'est un petit peu quelque chose à double face. C'est à la fois, me semble-t-il, un formidable aiguillon de politique publique, ou ça devrait être un formidable aiguillon de politique publique, et c'est bien comme ça que j'interprète l'interpellation précédente. Mais c'est aussi, ça peut aussi être une usine à gaz, un piège. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux versants et qu'il y a des conditions de réalisation de cette utilité sociale qui font que ça c'est utilisé comme un vrai levier pour refonder la manière dont on pense la politique publique au sein d'une collectivité territoriale, par exemple, sans tomber dans les pièges. Alors, il se trouve qu'en Champagne-Ardenne, il y a dans un des départements, en l'occurrence en Haute-Marne, il y a un collectif d'associations, de 44 associations, je crois, qui, il y a 2 ou 3 ans, se systématiser la raréfaction des crédits publics, a décidé de se réunir et d'anticiper, et plutôt que d'être dans une logique de guichet, de se dire comment on va gérer les années qui viennent en allant demander des fonds aux collectivités, quelles qu'elles soient, pas spécialement à la région, et puis s'entendre dire que nos subsides baissent régulièrement, comment on anticipe et comment on peut se mettre ensemble autour d'une table pour renouveler le dialogue avec les pouvoirs publics. Alors, ce qu'il y avait d'intéressant dans la démarche, d'abord, c'est que j'ai dit 44 associations de mouvements différents. Ça réunit aussi bien des associations, des structures d'insertion, je ne sais plus, que des associations, des fédérations d'éducation populaire, que de services aux personnes. Donc déjà, ça, c'est pas forcément un croisement, voilà. Et puis, le fait d'anticiper, de se dire, on va aller voir les collectivités, on va essayer de réfléchir comment on peut aller voir les collectivités en mettant en avant l'utilité sociale qu'on apporte, et pas seulement en disant on a demandé des sous, ça nous a paru intéressant. Et donc le Conseil régional a choisi d'accompagner cette démarche, d'accompagner le temps de réflexion qui a duré 2 ans. Et la démarche a abouti donc à une charte d'utilité sociale, c'est-à-dire à un document qui propose, qui se dit quand même, quand on conventionne et qu'on contracte des crédits publics, voilà à quoi on s'engage, mais voilà à quoi la collectivité s'engage aussi. Donc on est bien dans une logique de co-construction, parce qu'on a été associé au fondement de la démarche, voilà. Et donc le Conseil régional est la première collectivité qui a signé cette charte pour le département, enfin pour la région, mais l'ensemble des collectivités sont appelées à signer cette charte. Il y a un pays qui a signé, et puis c'est tout récent, voilà. Donc à partir de cette initiative et de ce qu'on entend, je trouve qu'effectivement c'est intéressant, parce qu'on est bien, on voit bien, et on a souvent perdu ça, on n'est pas dans une logique descendante de la politique publique, et je trouve, c'est en ça que je trouve que le concept d'utilité sociale peut être un aiguillon de la manière de penser la politique publique, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond d'abord, parce que quand on parle d'utilité sociale, ça veut dire à la fois qu'on réinterroge cette notion, et je rejoins ce qui vient d'être dit sur on va avoir besoin de social dans cette société, et on est à la fois dans une logique où on sort du dogme, du sacro-saint dogme économique, parce que compte tenu de la crise économique et compte tenu des problèmes d'emploi aujourd'hui et de la raréfaction des crédits publics quand même, et on a beau être dans des régions de gauche, etc., on a quand même une espèce de pression pour que chaque euro investi, on soit sûr que quelque part, il crée un emploi. Et on ne se pose pas toujours les bonnes questions sur lequel emploi on crée. Donc, on est quand même sous cette pression assez forte. Et puis, à l'inverse, on est aussi sous une forme de tabou économique, c'est-à-dire que c'est pas très bien de discuter avec les entreprises, c'est peut-être dangereux, on ne sait pas ce qu'on va faire. Je vous avais dit ça bien mieux que moi. Donc voilà, et ce concept d'utilité sociale tel qu'il a été abordé là autour de la table, je trouve que ça permet de mettre les pieds dans le plat de cette question-là, quoi. Donc ça, c'est quand même intéressant pour nous réinterroger. Par ailleurs, toujours sur le fond, on voit bien que jusqu'à présent, les politiques publiques ont eu quand même l'art de traiter les problèmes de manière assez cloisonnée, en se disant, bon, on va essayer de créer de l'emploi, et puis, ben, tant pis si on détruit un peu l'environnement pour créer de l'emploi, on fera après des politiques environnementales qui corrigent ce qu'on a fait. Donc, on met de l'argent public d'un côté pour faire quelque chose, puis on met de l'argent public de l'autre côté, voilà. Donc, c'est aussi une manière de voir les choses différemment, et de se dire, on peut peut-être aussi mettre qu'un euro, mais en se posant la question de faire en sorte que cet euro, il ait à la fois des vertus sociales, écologiques et environnementales. Bon, on est de loin de tout ça, mais n'empêche que je trouve que les discussions et les projets du tour de table là montrent bien que c'est aussi une manière d'approcher globalement les choses. Donc ça, c'est pour le côté positif et en quoi c'est un concept qui est très intéressant, aiguillon sur le fond. C'est aussi un concept qui me semble aiguillon sur la forme parce que, je l'ai dit un peu tout à l'heure, ça oblige à repasser à une logique un peu ascendante du dialogue entre acteurs et politiques publiques et de sortir de la pensée selon laquelle, parce qu'on est collectivité, quel que soit le niveau que ce soit, on impose les façons de voir. Ben non, normalement, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est pas comme ça que les choses doivent se construire. Ça doit bien être un dialogue. Donc, ça oblige à repenser à un renouvellement du dialogue qui est quand même aussi important, à mon avis, pour sortir de l'impasse dans laquelle on est actuellement, qui n'est pas qu'une impasse économique. C'est aussi, nous on l'a vu, on le voit, c'est très émergent et ça va être une bataille, mais ça peut être aussi un support de mise en dynamique. Je crois que ce qu'ont vécu le collectif d'associations que j'évoquais, c'est s'obliger à se réinterroger sur les valeurs, à réinterroger les conseils d'administration, etc. Donc c'est un support. Et puis tous les témoignages qu'on a eu depuis ce matin montrent que c'est quand même une façon, c'est pas tant le résultat qui est intéressant et le référentiel, etc., que finalement le processus dans lequel ça nous met en marche. Donc ça, c'est intéressant sur les territoires, mais c'est aussi, je dirais, un support de mise en dynamique en interne au sein de nos collectivités. C'est le moyen d'emmener de la transversalité entre les différents services. Et par exemple, aujourd'hui, alors il se trouve que le pôle d'économie sociale au sein du conseil régional a plutôt été le relais, l'interlocuteur des acteurs du collectif d'utilité sociale. N'empêche que toute la bagarre qu'on a amenée actuellement, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas notre affaire, mais que ce soit très porté en transversal. Et que maintenant, chaque fois que notre collectivité signera une convention avec une association ou avec une structure d'économie sociale, que ce soit au niveau de la formation, de l'agriculture, puisqu'on est en train d'installer Terre de Liens en Champagne-Ardenne, on annexe cette charte-là, quoi. Et donc, là, il y a un travail à faire de conviction auprès des collègues élus et des autres services. Mais n'empêche que, du coup, ça amène quand même à des dynamiques transversales au niveau de la région. Donc, voilà pour citer quelques exemples de en quoi cette notion d'utilité sociale, elle est quand même vraiment intéressante pour voir comment on peut travailler les politiques publiques autrement. Alors je disais que ça peut aussi être un piège, il faut faire attention, je pense que ça ne l'est pas forcément, mais il faut simplement être un peu conscient des choses, parce que, et c'est bien normal, et c'est très fort et très présent en ce moment, à partir du moment où il y a de l'argent public d'engager, il y a une forme de redevabilité, le terme a été employé à propos d'autres choses ce matin, et donc il y a forcément, on doit justifier comment c'est dépensé. Et ça nous met dans un contexte très technocratique en quelque sorte, et tout ce qu'on a discuté, les exemples, toute la question de mise en référentiel, de recherche de normes, elle est à la fois très intéressante parce qu'elle permet d'objectiver les choses. C'est du coup un vecteur de dialogue important qui permet de discuter fiablement, etc. Mais c'est aussi quand même un risque patent de tomber un peu dans l'usine à gaz ou dans l'outillage extrêmement lourd dont on ne sort pas et duquel on perd les objectifs. Donc, ça peut être un risque. Il y a quand même aussi le risque de la normalisation derrière ça, c'est-à-dire que quand on parle de référentiel ou de... les services en particulier, mais parfois aussi les élus ou les services juridiques, surtout pour qui c'est des démarches un peu inconnues, aiment bien pouvoir se rassurer. Puis, parce qu'il y a des... il y a quand même une tentation de rester dans le chemin, dans le sentier, et donc de faire ce qu'on a déjà fait. Et donc, c'est difficile d'imposer parfois des cadres imaginatifs. Donc, il faut faire attention à ce risque de normalisation. Il y a un risque qui est plutôt inhérent aussi aux élus, c'est celui de l'opportunisme. C'est quand même de se dire, bah oui, on va signer une charte ou faire un référentiel, et puis ça sera toujours la solution pour expliquer qu'on va mettre moins d'argent parce que finalement, on n'a plus beaucoup d'argent. Donc, faut quand même aussi faire attention à pas tomber dans ce risque ou de céder à la mode aussi, puisqu'on voit quand même, et ça a été réexpliqué ce matin, qu'il y a beaucoup de démarches d'utilité sociale en cours. Et puis, un risque ou une difficulté qu'il faut prendre en compte, et ça, je pense que les réseaux nationaux peuvent aider à lever cette difficulté, c'est la question du transfert, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a besoin d'avancer à partir d'expériences concrètes, de dialogue, et ça, c'est très... Je veux dire, quand on parle de co-construction, forcément, pour avancer, c'est pas sur des choses vagues, donc c'est à partir d'expériences concrètes, mais du coup, faut en même temps penser le transfert, et ça, ça peut être difficile, mais après, c'est aussi en travaillant en triptyque avec les réseaux nationaux qu'on peut avancer sur ces questions-là. Donc on voit bien que c'est une espèce de... Je sais plus à qui je disais, là, entre milliers d'eux, c'est un peu une espèce de chemin, de ligne de crête qui est à la fois très vertueux et qui peut être très très intéressant et renouveler vraiment la façon de penser les choses, mais qui peut aussi tomber du mauvais côté et alourdir les choses, complexifier et pas donner grand chose. Cela dit, je trouve que quand on parle de co-construction, de partenariat comme ça a été évoqué, c'est aussi des moyens d'éviter ce piège là il y a un enjeu énorme à avoir une association en amont et des techniciens et des élus, enfin le travail de sensibilisation auprès des élus. La question de l'évaluation qui a été évoquée aussi est importante, là encore, sans tomber dans l'unagas, pour essayer de ressortir de cette notion d'utilité sociale le meilleur et que ça booste un peu la manière dont on pense l'argent public qui est investi, la manière dont on discute avec les acteurs et pas simplement que ça se transforme en dispositif, en sorte de récupération, d'instrumentalisation. La dernière chose que j'ai pas dit dans le rapport qu'on a avec les structures de l'économie sociale et les associations, c'est que je trouve que c'est un outil très intéressant pour sortir du risque ou de la tentation permanente de l'instrumentalisation qui n'est pas nouvelle, mais qui risque de se renforcer avec la réduction des crédits publics. Et je trouve que c'est quand même vraiment fondamental. La société en a plus besoin que jamais de ne pas tomber là-dedans. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un enjeu important à respecter les structures d'économie sociale pour ce qu'elles font et pas pour ce qu'elles sont et pas que pour ce qu'elles font en leur passant des commandes, quoi. Et ça, c'est pas un réflexe évident. Mais je trouve que c'est vraiment important dans le contexte actuel où la démocratie est quand même pas garantie tous les jours, quoi. Donc, et voilà. Et je trouve que l'utilité sociale, elle amène tout ça. En tout cas, c'est les réflexions que ça nous inspire au vu de ce qu'on voit et de ce que je trouve qui a été dit dans les réseaux sociaux. Voilà.
Merci.